voyager.
Clémence nous emmène au Sri Lanka, son pays coup de cœur. Entre plages paradisiaques, temples millénaires et sourires chaleureux, elle évoque aussi des réalités moins visibles, crise économique et tensions politiques.
On pourrait parler du Sri Lanka pendant des heures, mais c'est vrai que c'est un très très beau pays pour visiter. Après, c'est vrai que je me verrais plus y vivre, mais c'est un très très beau pays pour voyager. Il faut y aller au moins une fois. Je m'appelle Clémence et je vais parler du Sri Lanka. C'est une petite île qui est souvent appelée la larme de l'Inde et elle est située en fait au sud de l'Inde justement. Et elle est vraiment comparée à l'Inde en termes de culture, en termes de religion, en termes de faciès des gens, de façon de s'habiller. Souvent, on dit que c'est l'Inde en plus doux. Quel que soit l'endroit où on se trouve sur l'île, les paysages sont absolument différents. Par exemple, dans les montagnes, c'est des plantations de thé à perte de vue. C'est vraiment un paysage hyper verdoyant, c'est des plaines vallonnées, c'est splendide. Au sud, c'est des plages très paradisiaques, sable fin. On a des grandes villes développées. Au nord, ça va être vraiment plus ressemblé à l'Inde, justement. Ça va être plus, les paysages sont plus secs, plus arides, plus plats. On va avoir des temples, du coup, hindouistes. Donc, vraiment, au niveau de l'architecture, ça change énormément. Et il y a une région que j'aime beaucoup qui s'appelle Sigiriya. Et ça, on l'appelle la savane sri-lankaise. C'est vraiment, ça ressemble vraiment un petit peu à l'Afrique avec des grandes plaines. Et on a des petites cabanes un peu perchées partout. C'est pour les fermiers, pour les éléphants, justement, pour échapper aux éléphants. C'est des gens qui sont très accueillants, qui sont très souriants. C'est vraiment une grande qualité qui est mise en avant souvent chez eux. Après, c'est vrai que d'y vivre et d'y être entouré, c'est vraiment deux choses différentes. C'est très difficile d'être une femme au Sri Lanka et de s'imposer. La femme n'a pas beaucoup de droits, la femme ne peut pas sortir, la femme ne peut pas boire un coup avec une copine. Après, je parle principalement des vieilles familles, des familles conservatrices. Évidemment, à la capitale, ce n'est pas la même chose, mais c'est des gens très accueillants et très souriants. J'avais effectivement, en tant qu'expat, tous ces côtés négatifs parce que je suis une femme. Après, j'ai quand même réussi un petit peu à m'imposer. Quand on habitait là-bas, en fait, j'organisais des visites de la ville. Et c'était très surprenant pour eux de voir une femme étrangère blanche, qui plus est, qui faisait visiter leur ville. J'ai jamais pris le boulot de quelqu'un ou quoi que ce soit, mais je faisais des visites différentes. Donc, j'expliquais l'histoire, j'expliquais l'architecture de la ville, tout ce que eux ne font pas, en fait. Et ils étaient très, très, très intrigués de voir une femme qui faisait ça. Et souvent, ils me demandaient où était mon mari. Et je leur disais, mon mari, il fait le ménage à la maison. Et du coup, ça les choquait que j'ose dire ça. Mais oui, j'ai eu les côtés négatifs. On a déjà appelé mon mari en lui disant « Écoute, ta femme, elle est en short dans la rue, ça ne se fait pas, elle est toute nue, il faut que tu fasses quelque chose. » J'ai déjà eu, en train de boire un café tout simplement avec une amie, mon mari m'a appelé en me disant « Ah, t'es au café là !» Alors, j'avais rien à cacher, mais voilà, il le savait. Donc oui, j'ai eu des côtés négatifs comme j'ai eu des côtés positifs d'être une étrangère qui habite dans un autre pays avec des mœurs et une culture différente. Alors, l'histoire du Sri Lanka, elle est très très complexe parce que c'est un pays qui a une longue guerre civile d'environ 30 ans. C'est, pour résumer et faire simple, en fait, c'est les hindous, les tigres tamouls du nord qui ont demandé l'indépendance du pays. Alors, je vais peut-être faire une ou deux fautes et me tromper avec des mots. Je m'excuse par avance. Je ne suis pas historienne. Mais voilà, en gros, c'est le nord qui a demandé son indépendance. Donc, ça a fait une guerre civile qui a opposé les bouddhistes contre les tamouls. La guerre a duré environ 30 ans. Il y a eu un génocide des Tamouls qui n'a jamais été reconnu par les bouddhistes. Et la guerre est finie seulement depuis 2009. Donc, c'est vraiment très, très récent. À l'heure d'aujourd'hui, il y a toujours des tensions religieuses qui ne se ressentent pas quand on est touriste, mais il y a toujours des tensions religieuses. On sait que, par exemple, des serveurs tamouls dans un restaurant, dans le même restaurant, il y a des serveurs tamouls et des serveurs bouddhistes, les serveurs tamouls vont être payés moins bien. Donc, il y a toujours des différences qui sont faites. Après, c'est vrai que c'est dans l'intérêt de personne que la guerre recommence. Mais voilà, il y a toujours des tensions. Ensuite, en 2019, il y a eu des attentats, des très, très gros attentats terroristes qui ont été revendiqués par Daesh. Ils ont visé quatre églises et quatre hôtels de luxe un dimanche de Pâques. Donc ça a été un très, très gros problème au Sri Lanka. Il y a eu plus de 250 morts. Ensuite, bah, comme tout le monde le sait, on a eu le droit à la crise économique en 2020. Sauf que le gouvernement était dirigé depuis la fin de la guerre par une seule et même famille, une famille de personnes très corrompues qui a complètement vidé les caisses de l'État, ce qui a entraîné une crise économique sans précédent. Nous, on était là à ce moment-là, on n'avait pas d'électricité, on avait 12 heures de coupure d'électricité par jour, on a eu 3 mois sans une goutte d'essence, donc c'était extrêmement compliqué, les magasins étaient vides, les caisses de l'État étaient complètement vides. Donc, il y a eu une grosse, grosse révolution. Le président a dû fuir en hélicoptère. Enfin bon, c'était assez compliqué. Donc voilà, l'histoire du Sri Lanka, c'est une histoire qui est assez compliquée, un pays qui se remet progressivement grâce aux aides de l'IMF et qui est en train de remonter, mais c'est un pays qui est toujours très pauvre, avec un tiers de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. En tant que Française, effectivement, on s'attend pas du tout à vivre ce genre d'événement. On savait honnêtement que c'était un pays qui était instable avant d'aller y vivre, parce qu'évidemment, on n'a pas pris la décision à la légère, on s'est renseigné un minimum, on a passé du temps sur place avant de prendre la décision. Après, entre ce qu'on nous dit et la réalité du terrain, c'est deux choses différentes. Et c'est vrai que nous, donc on est arrivé en janvier 2019 et en avril 2019, il y a eu les attentats. Et là, ça a été vraiment assez compliqué parce que sur le coup, on ne sait pas ce qui se passe. On est dans un pays où on ne maîtrise pas la langue, on n'a aucune idée. On sait qu'il y a une guerre civile. À l'époque, elle était terminée que depuis 10 ans seulement. Donc, on s'est demandé, est-ce que ça recommence? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'était effectivement très, très compliqué. On a tout de suite découvert ce que c'était d'avoir des couvre-feux, parce que pour le coup, le Sri Lanka ne rigole pas avec ça et à chaque problème, c'est couvre-feu. On a découvert ce que c'était d'avoir les réseaux sociaux coupés pour éviter justement les tensions sur les réseaux, donc ils avaient tout coupé. Donc là, effectivement, une petite panique et les attentats ont mis très longtemps à être revendiqués. Donc tout le monde nous disait, bah, c'est la guerre qui recommence, etc. Donc ouais, forcément, on se pose des questions. Après, dès que les attentats ont été revendiqués, on s'est tout de suite dit, c'est horrible ce que je vais dire, mais en tant qu'Européens et en tant que Français, on est habitués malheureusement aux attentats, on sait que les gens oublient. Donc on s'est dit, bah, on reste, de toute façon, on avait tout quitté, on avait tout vendu, on n'avait plus de travail en France, donc on ne pouvait pas repartir, donc on est resté. Et c'est vrai que par contre, quand la crise économique est arrivée et que là, on a dû expérimenter les 12 heures de coupure d'électricité par jour, pas d'essence, qu'on a vu vraiment les gens sombrer dans la pauvreté parce qu'on savait qu'on avait conscience qu'il y avait de la pauvreté au Sri Lanka, mais nous, on était quand même dans une grande ville, entre guillemets, donc on savait qu'il y avait de la pauvreté, mais on ne la voyait pas. Là, quand on voyait les gens faire la queue pendant 24 heures pour aller chercher du lait, de la farine, ce genre de choses, là, ça a été très compliqué. Après, je pense que c'est une expérience qui remet clairement les choses en place et on se rend compte clairement qu'on a énormément de chance d'être né là où on est né, d'avoir un passeport européen et de pouvoir, si on veut demain rentrer à la maison, c'est une chance inouïe. On a commencé je crois que quasiment depuis le début, en fait, on a commencé parce que nous, on a monté une agence de voyage sur place et on a décidé qu'une partie de nos biens irait de toute façon pour des opérations de ce style. Donc, on a commencé à faire des opérations vraiment régulières et dans le but vraiment d'avoir une action sur le long terme. Donc, on a monté un projet qui s'appelle Lunettes pour tous. Et puis, quand la crise économique est arrivée, on s'est rendu compte que les lunettes, c'était très bien, mais c'est pas ce qui permettait aux gens de vivre et d'avoir à manger, quoi. Donc là, effectivement, on s'est mis à organiser, parce que forcément, même si nous, on donne de nos gains, on a quand même vécu une crise économique, on n'a pas eu de revenus pendant 2 ans et demi. Donc, il fallait absolument qu'on fasse appel à un maximum de dons. Donc, on a commencé à monter des collectes de produits de première nécessité. Donc, en général, c'est un peu toujours la même chose, c'est des colis vraiment avec des produits de base. Soit les gens pouvaient envoyer des dons, soit les gens pouvaient déposer directement des produits dans un café, dans un restaurant, et ensuite, nous, on allait les distribuer dans des villages. Et ça a permis d'aider, je pense, au moins 250-300 familles. Donc, même si ça leur a donné un petit répit pendant quelques jours, bah, c'était toujours ça dans un moment donné où ces personnes avaient zéro revenu et aucun moyen d'avoir accès à la nourriture. On a toujours été aidés par les Sri Lankais parce que ce que nous, on pense que les Sri Lankais vont avoir comme besoin et ce qu'ils ont réellement besoin, ce sont vraiment des choses différentes. Nous, on a nos idées d'Européens avec il faut acheter ça, il faut acheter ça, il faut acheter ça. Et en fait, ce n'est pas du tout eux ce dont ils avaient besoin. Eux, ils avaient besoin, par exemple, de denrées qui étaient, entre guillemets, pas périssables, donc pas de légumes. C'est triste à dire, hein, mais ils ne voulaient pas des légumes, ils voulaient plutôt du riz, ils voulaient plutôt des lentilles, de la farine, des choses qu'ils allaient pouvoir garder. Donc, c'était très important de s'entourer de personnes. Et on s'est tout de suite entouré d'un ami sri-lankais qui a monté une petite association locale. Et en fait, lui, il travaillait avec une professeure dans plusieurs villages. En fait, elle tournait entre plusieurs villages. Et cette professeure sélectionnait les enfants, les familles avec le plus d'enfants, les familles les plus pauvres et aussi les familles en fonction des résultats scolaires des enfants. Parce qu'elle voulait aussi montrer aux enfants que c'était aussi de leur responsabilité d'aider leur famille. Et évidemment, on a aussi fait appel aux Gramaninadaris, c'est les mères en fait des villages, qui elles nous disaient, voilà, telle ou telle famille a vraiment besoin, a plus besoin qu'une. Alors, en tant que touriste, voyager au Sri Lanka, globalement, c'est vraiment pas dangereux. C'est un pays, au contraire, qui est vraiment très accueillant, encore une fois. Ils ont compris l'impact du tourisme dans leur pays. Ils savent que c'est vital. Donc, globalement, voyager en tant que touriste au Sri Lanka, c'est pas du tout un problème. Après, c'est vrai que quand on voyage en tant que femme seule, faut avoir conscience que certains regards peuvent être appuyés. Il faut avoir conscience que c'est un pays qui est conservateur. Après, il y aura toujours des personnes qui diront, mais non, moi, ça s'est super bien passé, j'ai jamais ressenti ça, ou des personnes qui diront le contraire, comme dans tous les pays du monde, mais comme dans tous les pays du monde, quand on est une femme seule, il faut toujours garder quand même un minimum de règles de sécurité et de bon sens, on va dire. Mais non, c'est un pays qui est globalement safe. Après, il faut avoir conscience aussi au Sri Lanka qu'on ne peut pas tout dire. Il faut faire très attention à ça. On ne peut pas parler, j'ai dit le mot génocide et en vrai, j'aurais même pas dû le dire. La liberté d'expression est très, très bridée, donc c'est des choses auxquelles il faut vraiment avoir conscience. Même certains articles sur le blog qu'on a écrit, j'ai déjà reçu des messages de Sri Lankais qui me disent t'es courageuse parce que tu serais encore au Sri Lanka, ce serait compliqué. Alors, d'un point de vue santé, c'est vrai que globalement, le Sri Lanka fait peur. Et en fait, il y a de très, très bons médecins. Il faut savoir qu'au Sri Lanka, tout le monde veut quitter le pays. Tous les Sri Lankais veulent quitter le pays pour découvrir la vie ailleurs, pour essayer d'aller travailler ailleurs. Et chaque personne qui est, par exemple, a un très bon métier comme médecin ou avocat va automatiquement revenir après au Sri Lanka. Donc, il y a des très, très bons médecins au Sri Lanka. Il y a des très, très bons hôpitaux au Sri Lanka. Et il faut aussi savoir que les médecins qui travaillent en hôpital privé vont aussi travailler dans les hôpitaux publics. Mais ça, c'est un peu partout en Asie. Donc, c'est juste l'hygiène qui va changer dans les hôpitaux. L'ancienne génération va plutôt se soigner avec la médecine ayurvédique. Donc, la médecine ayurvédique, c'est des plantes. C'est tout ce qui est en fait produit naturel. Ce n'est pas que des plantes. Mais c'est des traitements qui sont longs, qui vont aller sur le long terme. Et franchement, il y a des trucs, c'est vraiment dégueulasse. Je suis désolée de parler comme ça. J'ai testé certains remèdes et c'est vraiment immonde. Mais voilà, c'est une médecine qui est très, très utilisée, qui est du coup très peu chère par rapport aux soins si on doit être hospitalisé ou quelque chose comme ça. Alors, au Sri Lanka, il y a beaucoup de spécialités culinaires. Le plat principal, on va dire que c'est du rice and curry, donc c'est du riz avec différents currys. Globalement, en tant que touriste, les touristes vont toujours avoir les mêmes currys. parce que c'est simple à faire pour les Sri Lankais et parce qu'ils sont persuadés que c'est ce que nous, on veut en fait. Alors qu'au contraire, en tant que touriste, on veut déguster un maximum de curry différents. Et en fait, j'ai appris, grâce à un pharmacien ayurvédique, que dans les familles, les currys sont composés en fonction des aliments chauds et des aliments froids. Alors, je ne sais plus quel aliment chaud et quel aliment est froid, mais par exemple, s'ils font un dal de lentilles, eh ben, ils vont faire un chutney à la mangue à côté, parce que c'est deux aliments qui vont se combiner. Et le fait, en Ayurveda, de manger des aliments chauds et des aliments froids, ça limite les maladies. Donc, ouais, c'était la petite parenthèse un peu Ayurveda. Mais donc, oui, le plat principal, c'est le rice and curry. Après, selon les régions, forcément, il y a aussi des choses qui sont un petit peu adaptées, des plats qui changent. Par exemple, au nord, le rice and curry va avoir une grosse influence indienne. Donc, le dal va être totalement différent. Il y a aussi beaucoup de spécialités du sud de l'Inde, comme des dosas, c'est des énormes crêpes, c'est absolument délicieux. Ou des idlis, c'est du riz fermenté. Alors comme ça a l'air un peu horrible ce que je dis, mais en fait, c'est délicieux, c'est hyper moelleux. Enfin, c'est un régal. Et ils mangent beaucoup, 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 beaucoup de curry. Et ça, matin, midi et soir. Forcément, en 4 ans et demi, j'ai visité absolument tous les marchés possibles de l'île et tous les ateliers, les usines de thé, les plantations. Et à chaque fois, ils sont vraiment très curieux de voir des touristes et surtout qu'on s'intéresse à ce qu'ils font. Les marchés au Sri Lanka sont vraiment exceptionnels. Le marché de Kandy, la halle des légumes, c'est impressionnant parce que c'est les vieilles balances. Vraiment, les vieilles balances, c'est incroyable à voir. Les mecs sont pieds nus dans les étals, ils hurlent les promotions de la journée. Enfin, c'est une cacophonie sans précédent, mais c'est génial. C'est coloré, les marchands de fruits veulent toujours faire goûter des fruits, enfin c'est génial. Dans les usines de plantation de thé, ben, on peut découvrir vraiment comment le thé est fermenté, etc. Donc ça, c'est passionnant. Il y a des usines de tissage. Il y a un bon artisanat qui n'est pas forcément assez mis en avant, je trouve, mais il y a beaucoup d'artisanat et de savoir-faire. On a vécu énormément de fêtes, énormément de repas dans les familles parce que c'est toujours une fierté en fait pour eux d'avoir un étranger qui vient. Donc les repas chez l'habitant, on en a fait des dizaines et des dizaines. On a pu participer au Nouvel An. Le Nouvel An là-bas a lieu en avril chaque année. C'est une fête énorme qui dure plusieurs jours et il y a une coutume d'apporter des gâteaux. Les gâteaux sont vraiment pas bons, c'est plein de sucre, plein de beurre, mais voilà, mais c'est l'intention qui compte. Et à chaque fois, on était invités avec des repas, mais complètement gargantuesques. On a pu assister à un mariage, à 3 mariages. On a pu assister à 3 mariages, dont un vraiment traditionnel où la mariée était vraiment habillée avec sa belle tenue, etc. Donc c'est sympa parce qu'on se rend compte dans ces moments-là qu'on est vraiment intégré et qu'on fait vraiment partie de leur vie en fait, donc c'est chouette. Il y a la fête nationale qui a lieu en février si j'ai pas de bêtises, mais c'est pas vraiment une fête qui est célébrée partout dans le pays. Elle a lieu surtout à Colombo, par exemple dans le nord du pays. Pour eux, c'est pas leur fête nationale parce qu'ils se sentent pas vraiment Sri Lankais, pas intégrés. Mais il y a beaucoup de fêtes religieuses. Le Sri Lanka, c'est un des pays du monde qui compte le plus de jours fériés. Il y en a environ un par mois. Et à chaque fois, donc c'est des jours de Poya, c'est des jours de pleine lune, et ce sont toujours des grandes fêtes qui ont lieu. Il y a la fête qui célèbre la naissance, la mort et l'illumination de Bouddha. Il y a la fête qui célèbre l'arrivée du bouddhisme au Sri Lanka. C'est toujours des fêtes en lien avec la vie de Bouddha, et c'est toujours des fêtes assez impressionnantes avec des lumières, ou alors on va au temple. On a un grand festival dans la ville dans laquelle on habitait qui dure 10 jours chaque année où il y a des défilés dans les rues, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a des éléphants. Enfin, c'est assez, assez impressionnant. Donc, il y a énormément de fêtes au Sri Lanka. L'été, c'est la période où il y a le plus de festivals religieux. Donc, venir en été au Sri Lanka, c'est une bonne idée. C'est un pays qui est magnifique, mais c'est un pays qui est très difficile et je pense que c'est un pays qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Il ne faut pas avoir des œillères. C'est un magnifique pays, il y a beaucoup de potentiel, mais il faut vraiment garder la tête sur les épaules. L'expatriation, c'est génial. C'est vraiment une belle leçon de vie et j'encourage tout le monde à essayer parce que si ça ne marche pas, ben, on peut toujours rentrer et repartir. Ce n'est pas un problème.